Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 12 septembre 2023. En direct de Washington, Idrissa Seloudia. Pour commencer, les titres. Au Maroc, le séisme de vendredi a fait maintenant plus de 2900 morts. En Libye, 150 personnes tuées dans des inondations après des pluies diluviennes. Au Mali, les ex-rebelles du Nord se disent en temps de guerre avec la junte au pouvoir à Bamako. Au Gabon, des membres de l'opposition et d'anciens pro-Bongo nommés à la tête du Parlement de transition. En RDC, Amnesty International dénonce des expulsions forcées sur des sites d'extraction de cobalt et de cuivre. Le leader nord-coréen Kim Jong-un est arrivé en Russie pour un sommet avec Vladimir Poutine. Le président américain Joe Biden appelle à l'unité nationale lors du 22e anniversaire des attentats djihadistes du 11 septembre. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Maroc, volontaires et secouristes restent mobilisés ce mardi pour tenter de trouver d'éventuels survivants, même si les espoirs s'amenuisent plus de 72 heures après le séisme qui a fait près de 2900 morts, selon le dernier bilan publié lundi soir. De Marrakech, notre correspondant Emmanuel Gapela.
Et les dégâts sont énormes. Au fur et à mesure que l'on s'approche de l'épicentre de cette catastrophe, le ministère de l'Intérieur marocain a déjà dénombré plus de 2862 morts et plus de 2400 blessés selon le bilan provisoire rendu public. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir selon les mêmes autorités. Ce tremblement de terre de magnitude 7, selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique, a semé beaucoup de désolation. Et on peut constater encore des gravats qui sont visibles un peu partout dans les quartiers de Marrakech et dans les villes et villages avoisinants. Le ministère de l'Intérieur a affirmé avoir déployé l'ensemble de ses services pour organiser les opérations de secours. Et à l'heure actuelle, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et l'Espagne sont les pays autorisés à intervenir pour apporter leur aide en cas de besoin. Et dans l'espoir de retrouver certains proches disparus, les secouristes continuent de déblayer, de faire des recherches et les croyants prient pour les victimes et les blessés. Emmanuel Gapela pour VOA Afrique, Marrakech, Maroc.
Des inondations causées par des pluies diluviennes ont fait au moins 150 morts dans l'est de la Libye, a indiqué hier une source officielle. Le point avec Michel Joseph. Intervenant sur la chaîne libyenne Al-Amassar, le chef de l'exécutif dans l'est de la Libye, Oussama Ahmad, a avancé les chiffres de plus de 2000 morts et de milliers de disparus, rien que dans la ville de Derma. Je vous donne la nouvelle. Maintenant, le reste avec Michel Joseph.
Intervenant sur la chaîne libyenne Al-Massar, le chef de l'exécutif dans l'est de la Libye, Oussama Ahmad, a avancé les chiffres de plus de 2000 morts et de milliers de disparus, rien que dans la ville de Derna. Aucune source médicale ou service de secours n'a confirmé ce bilan. Des centaines d'habitants sont bloqués dans des zones difficiles d'accès, alors que les équipes de secours, épaulées par l'armée, tentent de leur venir en aide. Auparavant, Mohamed Massoud, son porte-parole, avait avancé un bilan d'au moins 150 morts à cause des inondations provoquées par la tempête. Un responsable du conseil municipal de Derna a qualifié la situation de catastrophique. Il a fait état de l'effondrement de 4 ponts principaux et 2 immeubles, ainsi que des 2 barrages de la ville. La tempête a frappé les villes côtières, mais aussi Benghazi, où un couvre-feu a été décrété et les écoles fermées. La tempête, baptisée Daniel, a aussi frappé ces derniers jours la Grèce, la Turquie et la Bulgarie, faisant au moins 27 morts.
Au Mali, les ex-rebelles du Nord se sont dit lundi en temps de guerre avec la junte au pouvoir à Bamako. dans un communiqué reçu par l'AFP et diffusé sur les réseaux sociaux. Dans ce communiqué intitulé « Communication en temps de guerre » et authentifié par un porte-parole, la SEMA appelle tous les habitants de la Zawad à se rendre sur le terrain pour contribuer à l'effort de guerre dans le but de défendre et protéger la patrie, ainsi de reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire national azawadien. Fin de citation. Les tensions n'ont cessé de croître depuis des mois entre la SEMA et la junte, faisant redouter la fin de l'accord de paix d'Alger et la reprise des hostilités engagées en 2012. L'avocat de Norbert Zongo, journaliste burkinabé assassiné en 1998, a espéré lundi que François Compaoré, mis en cause dans ce meurtre, serait extradé depuis la France malgré un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme recommandant un réexamen de la question. Au Gabon, le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, a nommé hier lundi à la tête des deux chambres d'un futur parlement de transition des ténors de l'ex-opposition, mais aussi d'anciens caciques du régime du président déchu, Nani Talani.
La présidence du Sénat de transition sera assurée par Paulette Missombo, présidente du parti Union nationale et l'une des principales figures de l'opposition à Ali Bongo, selon un décret du général Oligui lu à la télévision publique. Le président de l'Assemblée nationale de transition est Jean-François Ndongou, qui a été plusieurs fois ministre d'Ali Bongo et de son père, Feu Omar Bongo Ondimba. Le général Oligui a aussi nommé 4 vice-présidents pour chacune des deux chambres. Chacun des bureaux comprend des officiers de l'armée, des membres de partis ou d'organisations de la société civile, opposants connus au camp Bongo et d'anciens caciques de son régime qui se sont ralliés au pouvoir des militaires. Par ailleurs, la durée du couvre-feu, instaurée le soir de la présidentielle du 26 août, maintenue ensuite par les militaires, a été réduite à Libreville et sa banlieue de 22h à 6h au lieu de 18h à 6h. Il est maintenu sur le reste du territoire, ont annoncé les militaires gabonais.
En RDC, dans un rapport publié mardi, Amnesty International accuse des multinationales de s'être livrées à des expulsions forcées, menaces, actes d'intimidation et tromperies contre les populations locales sur des sites d'extraction de cobalt et de cuivre dans le sud-est du pays. Dans ce rapport intitulé « Alimenter le changement ou le statu quo », Amnesty et l'Initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains, une organisation basée en RDC, analyse l'impact sur les droits humains de 4 projets dans la région minière de Kolwezi. Pour les deux organisations, la course à l'expansion de ces opérations minières a entraîné l'expulsion forcée de populations de leurs habitations et de leurs champs.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, parti dimanche de Pyongyang à bord d'un train blindé, est arrivé ce mardi en Russie, où il doit parler de sujets sensibles avec Vladimir Poutine dans les jours à venir, selon le porte-parole du Kremlin cité par l'agence russe RIA Novosti. La Corée du Nord avait elle-même annoncé hier le déplacement de Kim Jong-un en Russie. Jean-Roger Bion.
Le respecté camarade Kim Jong-un va rencontrer le camarade Poutine et s'entretenir avec lui au cours de sa visite, a déclaré l'agence de presse officielle nord-coréenne. Le Kremlin a confirmé hier que M. Kim se rendrait en Russie dans les prochains jours. En traversant son propre pays pour rencontrer un paria international afin de demander de l'aide dans une guerre qu'il pensait gagner dès le premier mois, « Je dirais qu'il mendie de l'aide », a déclaré le porte-parole du département d'État, Matthew Miller. Les experts suggèrent que M. Poutine cherche à obtenir des obus d'artillerie et des missiles anti-chars pour la guerre en Ukraine. M. Kim serait à la recherche de technologies de pointe pour des satellites et des sous-marins à propulsion nucléaire. M. Miller a renouvelé les avertissements de Washington, selon lesquels un accord d'armement entre Moscou et Pyongyang pourrait déclencher de nouvelles sanctions.
Le président des États-Unis, Joe Biden, a lancé lundi un appel à l'unité nationale dans un pays politiquement au couteau tiré à l'occasion du 22e anniversaire des attentats djihadistes du 11 septembre, commémorés par ses compatriotes hier. Monsieur Biden a honoré la mémoire de près de 3000 morts dans les attaques des commandos d'Al-Qaïda qui avaient précipité en ce funeste 11 septembre 2001 quatre avions sur New York, sur le Pentagone près de Washington et en Pennsylvanie. Nous ne devons jamais perdre notre sens de l'unité nationale. Faisons-en la cause commune de notre époque, a exhorté le président américain devant un immense drapeau américain lors d'une escale sur une base militaire en Alaska, de retour d'une tournée en Inde et au Vietnam. Il a martelé que le terrorisme, y compris la violence politique et idéologique, sont à l'opposé de tout ce qui fait de nous une nation. La Minute Éco, Nanit Talani.
Malgré le retard dans le démarrage de la production d'hydrocarbures, les perspectives macroéconomiques du Sénégal restent favorables, estime le FMI, qui vient de finir une mission dans ce pays. En 2024, la croissance du PIB devrait atteindre 8,8%, stimulée par le démarrage de la production de pétrole et de gaz. La croissance hors carbure devrait remonter à 6%. Au Kenya, au moins 1,6 million de personnes disposent désormais du courant électrique grâce au projet de connectivité du dernier kilomètre de la BAD de 134,64 millions de dollars. Il a permis de construire 18 km de lignes supplémentaires de distribution basse tension raccordant au réseau électrique national des PME et plus de 300 000 ménages. Pour terminer, la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest augmentera son principal taux d'intérêt directeur de 3,25% à partir du 16 septembre. La BCAO précise que cette hausse vise à contenir l'incertitude économique régionale croissante et les pressions inflationnistes persistantes, ainsi qu'à anticiper leur impact sur les perspectives macroéconomiques de l'Afrique de l'Ouest.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Journée cruciale pour le Cameroun en éliminatoire de la prochaine CAN.
Oui, les derniers tickets seront attribués dans le groupe C au terme du match Cameroun-Burundi à Garoua. Dans ce groupe, la Namibie première totalise 5 points. En cas de match nul entre Camerounais et Burundais, les trois pays vont se retrouver avec 5 points chacun. La compétition aura lieu du 13 janvier au 11 février prochain en Côte d'Ivoire.
Plein de matchs amicaux aussi ce mardi.
Le Maroc fait face au Burkina Faso à Lens en France. Le Sénégal joue contre l'Algérie. La Côte d'Ivoire affronte le Mali au stade Alassane Ouattara de Bimpé. Pour les Aigles du Mali, ce match est une occasion pour jauger l'atmosphère avant la phase finale de la CAN. Plus qu'un match amical, une confrontation entre Ivoiriens et Maliens a toujours été d'un enjeu important. Lassine Sinayoko, attaquant malien.
À la Côte d'Ivoire, tout le monde sait que c'est une grande nation de football. Tout le monde est pressé. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas battu la Côte d'Ivoire. Donc tout le monde est pressé de jouer ce match et tout le monde a envie de gagner. Et à chaque fois qu'on porte ce maillot, on va tout faire pour gagner, pour rendre fier le pays.
Lassine Sinayoko, attaquant malien au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Paul Pogba, suspendu pour dopage.
L'international français de la Juventus Turin a été suspendu à titre provisoire après avoir fait l'objet d'un contrôle antidopage positif à la testostérone. L'annonce est faite par l'agence italienne antidopage qui ne précise pas la date du contrôle. Mais selon la presse italienne, Paul Pogba a été contrôlé le 20 août à l'issue du match entre Udine et la Juventus comptant pour la première journée du championnat d'Italie durant lequel il n'est pas entré en jeu. Si la contre-expertise de son échantillon B confirme la présence de métabolites de testostérone, il est passible d'une suspension de 4 ans. Pogba, 30 ans, a vécu une saison 2022-2023 cauchemardesque sur les terrains et en dehors. Le champion du monde 2018 a collectionné les blessures, ce qui a limité à 10 le nombre de matchs disputés lors de cet exercice et l'a privé du Mondial 2022 au Qatar. Il a aussi été victime d'une tentative d'extorsion en bande organisée dans laquelle est impliqué l'un de ses frères, Mathias.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Maroc, les secouristes sont lancés dans une course contre la montre pour retrouver des survivants dans les décombres après le séisme de vendredi soir, le plus puissant dans le pays depuis 6 décennies. Beaucoup de survivants ont dû passer la nuit dehors alors que leur maison a été détruite ou abîmée par le séisme qui a aussi endommagé des bâtiments historiques de la Médina de Marrakech classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Notre correspondant Emmanuel Ngapela a recueilli le témoignage d'une Ivoirienne basée à Marrakech.
Tigrane Mondenier, artiste chanteuse ivoirienne résidente au Maroc depuis. Je pense qu'il n'y a pas plus effrayant comme expérience de savoir que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. On était tranquillement à la maison et on sent le mur trembler, on sent le sol trembler. Et du coup, on est envahi de cette grosse peur-là. On se dit que tout peut s'effondrer. On prend la panique, on commence à courir dans tous les sens. Et vraiment, c'est effroyable. C'est effroyable comme sentiment. J'ai même pas de mots pour expliquer ça.
Est-ce que vous en avez tiré comme leçon qui pourrait peut-être changer un peu l'orientation de vos priorités aujourd'hui?
La première leçon est que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et il faut vraiment... Moi, personnellement, je venais à peine de finir mes prières quand il y a eu le tremblement. Donc du coup, j'ai compris que avoir Dieu dans sa vie, ça a une grosse importance, surtout quand on traverse ce genre de moment. Et voilà, mes priorités ont changé. Voilà, Dieu, moi, faire du bien autour de moi, parce que à n'importe quel moment, ça peut s'arrêter.
Dans certains endroits, certaines périphéries, il y a beaucoup plus de dégâts. Mais là où vous êtes, il y a moins de dégâts. Qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce qui a fait que ici, il n'y a pas trop de soucis?
Bon, je pense déjà que la solidité des bâtiments, les bâtiments dans le centre-ville ici ne sont pas vraiment des trucs anciens. C'est là la résidence, elle est... Je pense pas qu'elle ait plus de 10 ans d'existence, enfin je crois. Donc déjà la solidité des bâtiments et puis peut-être le fait qu'on ait été prompt à réagir à l'instant quand ça s'est passé. Il y a sûrement des gens qui n'ont pas eu cette chance-là. Je prends l'exemple de la Médina. On sait que la majorité des bâtiments à l'intérieur de la Médina sont des vieux bâtiments qui ont été restaurés. Donc du coup, c'est normal que les secousses n'aient pas les mêmes impacts sur nos bâtiments et les bâtiments de la Médina. C'est vraiment dommage parce qu'il y a des gens qui ont perdu la vie. Et voilà, nos condoléances aux familles attristées. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire?
Une artiste ivoirienne résidant au Maroc.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Niger, les dirigeants militaires ont rouvert l'espace aérien de leur pays aux avions commerciaux après l'avoir fermé le 6 août. Toutefois, cette reprise des vols n'a pas normalisé les activités des drones américains au Niger, a révélé le Pentagone. Reportage de la correspondante de la VOA au Pentagone, Carla Bab, et récit de Lionel Gahima.
Dans des entretiens exclusifs avec la VOA, des responsables américains ont fait état de la limitation depuis le coup d'état de juillet des vols de drones militaires américains basés au Niger. Ce pays est, pour l'armée américaine, la plaque tournante en matière de renseignement, de reconnaissance et de surveillance pour la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Des drones américains lancés à partir des bases situées dans la capitale nigérienne, ainsi que la base aérienne d'Agadez, à un millier de kilomètres au nord-est, ont permis de surveiller le ciel au sud de la région instable du bassin du lac Tchad, qui comprend le Cameroun, le Tchad et le Niger. Ces dernières années, les populations locales ont subi plein fouet les ravages des groupes islamistes. Bill Rodio est analyste à la Fondation pour la défense de la démocratie.
Les États-Unis ont des capacités, des ressources et des options de base limitées et ils parviennent à peine à contenir le problème.
Limiter les vols des drones donne un avantage aux militants, explique Roggio. La réduction de la surveillance aérienne et de la collecte de renseignements réduit les options au sol pour les États-Unis et leurs alliés dans la lutte contre le terrorisme, souligne pour sa part le général à la retraite Frank McKenzie, ancien chef de commandement central américain.
Cela réduit votre capacité à trouver des cibles, à passer aux étapes finales de l'attaque contre ces cibles. Cela a un effet significatif sur la capacité à conduire ce genre d'opération.
La coopération militaire États-Unis-Niger est suspendue depuis le coup d'État de juillet et le Pentagone a annoncé jeudi le repositionnement de ses forces de la base 101 dans la capitale Niamey à la base 201 à Agadez. Sabrina Singh, porte-parole adjointe du Pentagone.
Il n'y a pas de menace perceptible contre les troupes américaines ou de menace de violence sur le terrain. C'est tout simplement une mesure de précaution.
Les États-Unis ont 1100 soldats au Niger. Selon les autorités américaines, moins d'une centaine sont partis depuis le coup d'État, certains pour des raisons médicales, d'autres dans le cadre de la rotation normale du personnel.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Au Tchad, une délégation du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et la directrice régionale des opérations de la Banque mondiale vient de terminer une visite des différents sites des réfugiés soudanais installés dans l'est du pays. La Banque mondiale a annoncé un nouveau financement de 340 millions de dollars pour permettre aux autorités tchadiennes de faire face à cette crise humanitaire. André Kotmadjingar, notre correspondant à N'Djamena.
Plus de 412 000 réfugiés soudanais ont fui leur pays depuis le début de la guerre au Soudan le 15 avril cette année. Ils sont venus s'ajouter aux Soudanais qui ont fui la guerre du Darfour depuis 2003. L'imam Mahamat est le ministre tchadien de l'administration du territoire.
Ces chiffres en constante augmentation illustrent l'ampleur de la crise humanitaire que nous traversons. Ils révèlent également l'immense sacrifice consenti par le peuple tchadien depuis des années pour offrir sa terre et son hospitalité à des frères et sœurs qui en ont besoin. Cependant, force est de constater que nos capacités d'accueil et d'assistance ont atteint leurs limites. Les ressources se font de plus en plus rares, tandis que les tensions socio-économiques s'accroissent dangereusement. C'est pourquoi nous renouvelons aujourd'hui notre appel pressant à la solidarité internationale.
Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, reconnaît que c'est une grande crise dans le monde qui doit être une priorité pour la communauté internationale.
Le chiffre est probablement plus élevé que 400 000, mais c'est ce qu'on a pu compter au passage de la frontière et vers les sites où ils se trouvent. À ceci s'ajoutent ceux qui étaient déjà ici depuis les précédents conflits du Darfour, les réfugiés du Cameroun, les réfugiés de la République centrafricaine dans le sud, les réfugiés du Nigeria. Le Tchad aujourd'hui héberge 1 million de réfugiés. 1 million de réfugiés pour un pays qui a une population de 17 millions d'habitants. Ça veut dire qu'une personne sur 17 dans ce pays est un réfugié.
Pour Filippo Grandi, il y a très peu de pays au monde qui présentent une situation pareille. C'est inadmissible pour un pays comme le Tchad qui a ses propres défis de développement.
Le Tchad n'a pas de responsabilité dans le déclenchement de ces crises et donc cette responsabilité est là. Pour le reste de l'année, le système humanitaire a besoin de presque 400 millions de dollars, 388 pour être précis, pour aider le gouvernement à répondre à cette urgence. Pour l'instant, on n'a pas encore 100 millions de dollars. Donc on est très loin.
Déjà, la Banque mondiale a annoncé de nouveaux financements à hauteur de 340 millions de dollars pour permettre au Tchad de faire face à cette situation. Anna Bejerde est la directrice générale des opérations de la Banque mondiale.
La Banque voudrait intensifier son appui au profit du Tchad en lui accordant un surcroît de ressources, notamment pour financer des projets critiques dans les moyens de subsistance, des projets qui permettront d'investir dans l'élevage, dans l'agriculture. Nous aimerions aussi investir davantage dans la protection sociale. Comme vous le savez, l'insécurité alimentaire devient un problème de plus en plus vivace. Nous voulons aussi accroître les ressources pour la combattre. Nous voudrions également renforcer nos investissements dans l'infrastructure de base, les hôpitaux, les écoles.
Les autorités tchadiennes réitèrent leur demande urgente de la tenue d'une rencontre internationale sur la crise humanitaire au Tchad afin de permettre la mobilisation de fonds pour faire face à l'ampleur de la crise que traverse traverse le pays. André Kordoma Djingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la gestion des catastrophes naturelles à la lumière du séisme qui a secoué le Maroc. Alors que le pays compte encore les victimes de ce deuxième séisme le plus meurtrier de son histoire, l'année 2023 a déjà connu des tremblements de terre meurtriers en Turquie et en Syrie. Quels sont les risques sismiques en Afrique? Quel est le niveau de préparation des pays dans la gestion des catastrophes naturelles? Rendez-vous ce jeudi dans Washington Forum à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
L'Union africaine a intégré le G20 lors du sommet qui s'est tenu à New Delhi le week-end dernier. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Afrique et le G20? Quelles sont les implications de cette admission historique? Eric Manirakidza a joint à Dakar Ibrahim Khan, spécialiste de l'Union africaine.
Une très bonne nouvelle pour le continent, de pouvoir participer maintenant de manière permanente au plus grand forum sur la coopération économique mondiale, de pouvoir y exposer les problèmes, discuter avec les plus grands acteurs de l'économie mondiale des solutions à apporter aux difficultés économiques, mais aussi aux agendas économiques de l'Afrique. C'est vraiment une très très bonne chose pour le continent dans ce domaine. Seulement, il y a des questions importantes qui sont attachées à cela. C'est la capacité de l'Union africaine à pouvoir vraiment travailler de manière efficace pour pouvoir participer effectivement à ces activités-là.
L'Afrique est confrontée aux différents problèmes tels que le développement durable, la sécurité alimentaire, la stabilité politique et la lutte contre les inégalités régionales. Comment cette adhésion pourrait-elle contribuer à résoudre ces défis?
L'Afrique parvient au plan interne à discuter de ces problèmes, à identifier les bonnes stratégies et à vraiment mettre en avant ce qui est commun à l'ensemble des États africains. La semaine dernière s'est tenue à Nairobi une réunion sur le changement climatique en Afrique et la déclaration de Nairobi vraiment est le document de position des États africains. Maintenant, où porter ces problèmes, où porter ces questionnements, où demander à la communauté internationale de contribuer au règlement des problèmes liés au changement climatique. Le G20 en est un de ces espaces-là que l'Afrique pourrait utiliser. Cet espace-là va lui permettre vraiment de porter la voix de l'Afrique et peut-être d'amener la communauté internationale à être un peu plus regardant sur les préoccupations du continent.
En ce qui concerne la représentation équitable et la prise en compte des intérêts africains dans les discussions et les décisions du groupe des 20, quels sont les principaux obstacles et les préoccupations potentielles que les pays africains pourraient rencontrer en participant au G20?
Toute la méthodologie de travail doit changer. Le mode de fonctionnement de l'Union africaine doit changer pour pouvoir vraiment s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Et cela veut également dire que l'Afrique doit vraiment être prête à mettre en place des mécanismes comme au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire donner plus de responsabilités à la Commission de l'Union africaine pour pouvoir traiter ces dossiers-là au nom du continent. Donc vous voyez que l'Afrique part avec beaucoup de handicaps, mais si la volonté y est, ces handicaps-là pourraient être surmontés et permettre au continent vraiment de vraiment défendre ses intérêts dans ce cadre nouveau qui se dessine pour nous.
C'était Ibrahim Khan, spécialiste de l'Union africaine. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia. À la mise en onde de Georges Léonard Sagno, à la console Joubert El Taïb. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages X, Facebook d'abord, X, Lex, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.